Bah, c'est-à-dire que faudrait voir. Donc, ça, c'est dans le Jean 20, c'est ça? Dans Jean 20, il y a Marie-Madeleine au début, et puis ensuite, il y a Marie. Bah, c'est la même, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Parce que c'est Marie, virgule, la Magdalène, la Magdaléenne, finalement, souvent. Hein. Après, c'est comme Jésus, c'est Jésus de Nazareth, et puis ensuite, on met Jésus tout court en. C'est parce que comme il y en a plein, souvent, il fallait dire laquelle on parle. Donc, il mettait Jésus la Magdaléenne, ou on mettait Jésus, par Jésus, on disait Jésus de Nazareth, ou Jésus, fils de Joseph, ou Jésus en disant Jésus le fils du charpentier, Jésus le charpentier, pour les identifier, parce que des Jésus, il y en avait plein. Jésus, c'est Josué, c'est donc il y avait plein de garçons qui s'appelaient Josué, et plein de filles qui s'appelaient Marie, du nom de Myriam, la sœur de Moïse, qui était prophétesse. Voilà. Et puis, donc, je dis que c'est des femmes qui sont impatientes aussi. J'ai trouvé ça, que c'était commun aux deux. On voit Marie qui est impatiente aux noces de Cana, qui dit à Jésus, mais alors, manifeste-toi, fais quelque chose, c'est le temps. Allez, Jésus, tu dis, bon, ben, mollo. À chaque temps, il y a un tempo, il y a un rythme, il y a une heure qui convienne, et donc, il faut attendre, il faut être patient. Et c'est. Oui. Ben c'est qu'il y a un tempo et que lui, bon, voilà, il n'était pas tout à fait prêt pour commencer, pour se déclarer comme Christ, commencer son ministère de Christ. Et il y a un moment où il se lance, voilà. Et Marie, on a l'impression dans ce texte qu'elle le pousse, qu'elle le lance. On a
aussi l'impression qu'il est agacé de ça.
Ben, oui.
Il le fait quand même, mais
Et voilà.
c'est pas ce que j'avais prévu faire.
Ben, on sent que ça le pousse un peu, oui, non? Les noces de Cana, c'est comme ça, oui. C'est Jean 2, là, derrière.
Oui, mon heure n'est pas encore venue.
Alors, cela dit, oui, mais ça, c'est pas forcément contre Marie, ça, parce que, hein, moi, ce que je dirais, c'est que, si vous voulez, c'est toujours compliqué, ces histoires, parce que c'est pas un verbatim de la manière dont ça s'est passé. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé historiquement, voilà, bon, mais c'est des prédications. Et donc, les phrases comme ça, est-ce que c'est Jésus contre sa mère, ou bien c'est dans la rédaction qu'on en donne et qui nous invite à rentrer dans cette histoire, à en devenir les sujets finalement, c'est pas une question qui nous est posée. C'est-à-dire que pour que le Christ devienne, que Jésus devienne, la personne historique de Jésus devienne pour nous le Christ, se manifeste en changeant les choses, il faut qu'on commence par se poser cette question. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ou bien homme, qu'y a-t-il entre Jésus et toi? Et que c'est une question essentielle à se poser en premier point pour entrer dans cette démarche.
Il faut qu'il
Donc,
prenne son indépendance.
alors oui, voilà, ça aussi, c'est ce qu'on dit en rigolant, effectivement, c'est qu'on
Après,
parle beaucoup des mères juives. C'est peut-être une légende seulement, je ne sais pas, qu'elles cramponnent leurs garçons. C'est ce qu'on raconte, c'est peut-être simplement les Juifs séfarades et pas les Ashkénazes, c'est peut-être pas vrai du temps de Jésus en Palestine, j'en sais rien. Bon, on dit ça en rigolant, mais peut-être qu'effectivement toutes les mères ont du mal à lâcher leur petit poussin, non? C'est ça? Non? Donc, peut y avoir de ça aussi. Mais c'est justement à l'honneur de. Mais là, on en est déjà dans Jean 2, mais c'est justement à l'honneur de Marie, qui était mère de Jésus, ça je crois qu'absolument tout le monde est d'accord. Qu'elle a élevé quand même ce gamin. Et à la fin, au verset Jean 2, 12, hein, elle devient disciple de Jésus. Bah, ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident. C'est-à-dire que historiquement, à mon avis, pour Madame Marie, mère de Jésus, être d'abord sa mère, voir grandir le garçon, devenir charpentier comme Joseph. Et puis tout d'un coup, qui devient rabbi, qui enseigne, et qui. Peut-être serait le Christ. À l'époque, ce n'était pas une évidence totale, si vous voulez. Donc, pour elle, devenir tout d'un coup disciple de son fils, c'est pas évident. Donc, chapeau, chapeau, oui, franchement, c'est pas évident. Donc, dans cet itinéraire, si vous voulez, on nous invite vraiment, dans Jean 2, C'est vraiment un passage qui est essentiel. Marie est non seulement la mère de Jésus, mais elle se nous est présentée comme un peu un modèle de croyant pour entrer dans dans ce bénéfice de Jésus comme Christ, en fait. C'est vraiment un rôle, à mon avis, majeur. Donc Marie, à ce moment-là, elle n'est pas simplement mère de Jésus, du garçon Jésus. Elle est aussi... Elle nous apprend à ce que le Christ puisse naître en nous, puisse être actif en nous. Elle est mère du Christ en nous, finalement, si vous voulez. Merci, les filles, de votre courage.
Elle passe du rôle de mère à un rôle d'obéissance.
Elle passe d'un rôle de mère à un rôle d'obéissance. D'obéissance et d'obéissance dans le cheminement, c'est-à-dire c'est une obéissance de... C'est un devenir disciple, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, Jean 20 aussi. Jean 20, c'est vraiment... C'est vraiment une place de foi qui est formidable. Et dans l'itinéraire de foi qui est proposé, hein, avec cette histoire de Marie-Madeleine et de Jésus, c'est vraiment toute une histoire de conversion, de découverte du Christ. C'est finalement un peu le même sujet, si vous voulez. C'est une prédication qui nous est proposée pour que nous aussi, on ait ces conversions. Plusieurs fois, on voit Marie-Madeleine se retourne dans Jean 20. Se retourner, c'est le verbe même de la conversion, c'est le verbe de la réorientation de notre existence pour la mettre, j'allais dire, dans un bon cheminement, dans une bonne direction. Alors si on regarde un peu l'intérieur de la feuille, là, sur Marie et Marie-Madeleine, on voit, si vous voulez, que c'est... c'est intéressant aussi, je crois, de voir, pour voir comment les évangiles sont rédigés, si vous voulez, c'est que c'est quand même... Il y a des prises de position. Hein. C'est pas quatre témoins unanimes, c'est des témoins qui sont porteurs, d'un point de vue personnel, mais aussi... qui sont insérés dans l'Église avec des sensibilités, avec des mouvements et des choses comme ça. En particulier, pour Marie-Madeleine, hein, on sait qu'elle est particulièrement controversée et dans un sens, ça se voit un petit peu. Si vous voyez, dans la petite colonne, j'ai marqué bilan en bas. Le pire, c'est, selon Marc, dans l'Évangile selon Marc, vous voyez que l'Évangile selon Marc, dans la première version, on le sait, dans les manuscrits les plus anciens que nous avons de l'évangile selon Marc, il se termine hyper bizarrement, cet évangile. Il se termine sur les femmes qui sont au tombeau, qui voient un ange, le tombeau vide, donc une chose comme une expérience mystique, et puis qui sont mortes de trouille et qui partent sans ne rien dire à personne. Et ça se termine comme ça. Voilà. Alors il y a une finale qui a été ajoutée, une finale peut-être qui... un peu plus optimiste, avec Jésus qui apparaît. Mais même là, finalement, Marie-Madeleine a un rôle tout à fait secondaire. Son rôle est minorisé. Alors, c'est pareil dans Luc. Hein, Luc, Marie-Madeleine est présente quand même dès le début. Elle suit Jésus, elle est dans le groupe des femmes. Mais... elle voit les anges, elle a cette relation mystique, elle est parmi d'autres femmes, dans un groupe, jamais toute seule, selon Luc. Même si elle est première citée, elle ne rencontre pas Jésus, c'est des hommes qui vont rencontrer Jésus seulement, ce n'est pas les femmes. Désolé pour vous, mesdames, ce coup-là, ce n'est pas bon si on suit l'évangile selon Luc. Et d'ailleurs, Paul, qui est proche de Luc, hein, ils travaillent ensemble, Paul donne, au début du chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, il donne une liste des gens qui ont été témoins du Christ ressuscité. Il n'y a pas de femme dedans. Il y a Pierre en premier, et puis... Paul, c'est vrai qu'il y a des passages où ils sont assez féroces contre les femmes. Quand même, il y avait des femmes qui ont des grands rôles. Il y a Lydie, la marchande de pourpre, et puis il y a des femmes dans la lettre aux Romains qui sont apôtres, hein, qui sont diacres, dans l'entourage de Paul. Donc, il semblerait, si vous voulez, que Marc et Luc soient plutôt très réservés sur la place de Marie-Madeleine. À la limite, on dirait qu'ils ne peuvent pas faire autrement que marquer qu'elle était plus ou moins là à la résurrection, plus ou moins là dans le groupe de femmes qui suivaient Jésus, qui l'aidaient, qui l'assistaient, financièrement, pour l'accueil, pour le témoignage. On ne peut pas faire autrement, mais ils minimisent au maximum. Alors que Matthieu est plus nuancé, elle a vraiment une place, et puis surtout Jean, où elle a une place vraiment incontournable, majeure, fondamentale, c'est sans égal, pour sa place à la résurrection, surpassant largement Pierre et Jean, si vous voulez. Et puis pas seulement dans l'expérience mystique, si vous voulez, avec Jésus, ressuscité, mais sans arrêt allant vers les autres, témoignant, etc. Donc elle est vraiment un modèle top, en fait. Donc comment expliquer cette dispersion, si vous voulez, sur Marie-Madeleine? On a des indices aussi dans les écrits apocryphes, en fait. Dans les apocryphes, c'est-à-dire c'est des écrits qui n'ont pas été retenus dans la liste officielle des plus grands textes définis par l'Église, qu'on appelle le canon. Il y a des écrits qui ont été faits au 1er siècle, 2e, 3e, 4e, 5e siècle, qui sont partis d'une bibliothèque qu'on appelle les apocryphes chrétiens. Il y a des choses complètement échevelées, des choses tout à fait plus intéressantes et respectables, comme l'Évangile selon Thomas, comme d'autres choses qui sont pas mal du tout. Parfois, c'est un peu de sensibilité gnostique, c'est-à-dire que c'est dans une sensibilité attachant beaucoup de place à l'enseignement et puis avec des degrés d'initiation dans le dévoilement de cet enseignement, de cette théologie, de cette doctrine. Alors, ça n'a pas été retenu, effectivement, par le courant majoritaire. Effectivement, à mon avis, Jésus n'était pas particulièrement gnostique, donc c'est un apport plutôt extérieur. Et donc, dans ces écrits gnostiques, on voit que Marie-Madeleine a une première place dans un certain nombre, une place très importante comme étant chef de file des disciples, surpassant Pierre en particulier, et avec un conflit de Pierre qui est jaloux, qui dit « mais comment, c'est une femme qui va nous apprendre mieux que ce que nous le savons sur Jésus, etc. » Et donc ça peut très bien correspondre effectivement, même si on ne suit pas cette théorie, cette pensée gnostique. Ça peut aller dans le même sens. En disant Marie, Madeleine, elle a été chef de file d'une sensibilité au cœur du christianisme primitif, avec une jalousie d'autres courants, du courant peut-être majoritaire, de l'Église de Jérusalem, avec Jacques, le frère du Seigneur, avec Pierre et Paul, qui étaient les deux têtes de file, en dessous de Jacques, frère du Seigneur. Mais bon, du coup, de Pierre et de Paul, il y a ce rejet de Marie-Madeleine, de son courant de pensée, de sa sensibilité. Et donc, du coup, ça expliquerait que Marc, qui est disciple de Pierre, et que Luc, qui est disciple de Paul, minimise au maximum le rôle de Marie-Madeleine sans pouvoir l'effacer complètement, et que Jean était plus nuancé sur la question. Et c'est vrai que quand on voit l'Évangile selon Jean, en particulier le début de l'Évangile selon Jean avec le prologue, il y a un peu des ouvertures, des affinités avec la pensée gnostique. Avec ces passages, la pensée gnostique, il y a souvent un peu la vérité et l'erreur, les ténèbres et la lumière, les deux chemins, le bon chemin, le mauvais chemin. On a un peu d'une pensée comme ça dualiste, vous voyez, hein, le tout noir, tout blanc. Ça se retrouve un petit peu discrètement, mais quand même dans le début de l'Évangile selon Jean. Donc il peut y avoir des petites affinités qui ont moins gêné Jean peut-être dans la sensibilité de Marie-Madeleine. Jean, de toute façon, était un peu plus peut-être en dehors de ce courant de l'Église majoritaire. Enfin bref. Alors il y a aussi des apocryphes qui la présentent comme compagne de Jésus. Il y a dans un apocryphe, on voit que Jésus l'embrasse sur la bouche. Ça ne veut pas forcément dire qu'il lui fasse un French kiss, si vous voulez. Ce n'est pas forcément ça. La preuve, c'est qu'en Russie, bon, ils s'embrassent sur la bouche pour se dire bonjour, comme on se fait la bise chez nous, donc ça dépend un peu de la culture. Moi, j'ai vu quelque part que ça pouvait être un peu un symbole de « je te transmets ma parole dans ta bouche ». Hein, c'est-à-dire c'était un baiser qui pouvait se faire entre maître et disciple. C'était symbolique pour dire on unit nos paroles, on transmet la parole comme un oiseau donne la béquille à son poussin, si vous voulez. Ce n'est pas forcément chargé d'un érotisme torride.
C'est resté d'ailleurs dans la tradition médiévale, quand le féal prêtait hommage à son suzerain, il embrassait sur la bouche, pour dire que sa parole va se dire.
Ah voilà, on se donne sa parole. Ah oui, voilà. C'était ça, donc le baiser sur la bouche de Jésus avec Marie-Madeleine, dont on fait des gorges chaudes, et que les romans utilisent pour dire, voilà, c'était sa compagne, et puis ça a été caché par l'Église, qui ne voulait pas que ça soit, je ne veux pas cacher du tout. Si on nous dit que Jésus il était marié avec Marie-Madeleine, on dit, écoutez, il était marié avec Marie-Madeleine, et c'est très bien d'ainsi, si vous voulez. Sauf que comme ce n'est pas le problème, savoir marié, pas marié, ça n'a pas d'importance, par conséquent, ils n'ont pas abordé spécialement le statut matrimonial de Jésus, parce que bon, on s'en fiche un peu pour ce qui est de l'ordre de notre salut, en fait.
C'est un peu protestant, quand même.
C'est un peu protestant. Ou c'est un peu biblique, en fait, c'est un peu biblique, je pense.
Est-ce qu'il y a des signes entre Marie-Madeleine et Jésus, qui sont des signes, par contre, d'intimité reconnus, qui ne seraient pas le baiser qui serait...
Alors moi, j'en vois un, quand même, dans Jean 20, hein, quand elle l'appelle Rabouni. Moi, je trouve, si vous voulez, que c'est un diminutif quand même, et donc c'est un petit diminutif d'affection, et ça sent quand même un peu l'affection. Ça sent un peu quand même l'affection, l'affection, le côté vraiment intime, affectueux. Oui.
Affectueux amoureux.
Pas forcément, non. Pas forcément. C'est, je dirais.
Bonjour.
Bonjour Michel. Ah, il y a encore un papier pour Michel. Que ceux qui ne sont pas d'accord ne se mettent pas dans le champ. Je ne sais pas quoi vous dire. Hein, Je suis désolé.
C'est de la publicité pour l'oratoire.
C'est de la... Je sais pas, comprends pas. Pardon ?
Qu'est-ce qu'il faudrait comprendre immédiatement après, Rabouni, comme elle dit, ne me touche pas, je n'ai pas encore accompli ce que je vais faire. La phrase exacte, c'est Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père.
C'est-à-dire que voilà, je crois que cet itinéraire de foi qui est proposé, il est un peu par étapes, et donc il y a des étapes qui doivent être qu'il faut suivre pas à pas, et il ne faut pas forcément devancer comme elle le fait. Elle veut toujours aller plus vite. Alors dans un sens, c'est sympathique, parce que c'est comme ça finalement qu'elle peut débroussailler le terrain et vraiment avancer sur ce chemin, mais elle veut aller un peu trop vite peut-être, et donc... Vous voulez que j'ouvre un peu la fenêtre, peut-être qu'il fera. Non, donc, je ne suis pas encore monté vers le Père, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas croire que le royaume de Dieu est entièrement accompli, est présent, est sur la terre. Et déjà, voilà, il y a cette construction à faire. Il ne faut pas se sentir, faut peut-être pas non plus saisir le Christ en se disant « ça y est ». Je connais la théologie, je sais qui est le Christ, je le saisis, j'en fais le tour, je l'attrape et je le ficelle. C'est peut-être ça un peu. Ça sera, comme dirait, je ne sais pas si c'est quoi, c'est Mitterrand, hein, qu'est-ce que tu diras quand tu arriveras au ciel, il dira « maintenant je sais ». C'est pas lui, non, qui a dit ça? Si vous voulez, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pas, on pourra, c'est pas maintenant qu'on peut dire « maintenant je sais ». On peut dire « maintenant j'ai des intuitions, maintenant je découvre, j'explore, je recherche ». Le maintenant je sais, ça sera pour plus tard. C'est asymptotique, on dirait en mathématiques. Si vous voulez. Je ne sais même pas si ça sera dans la vie future tout de suite. C'est asymptotique, donc c'est chaque jour un peu plus. Ou comme les gens qui mettent un petit cœur, vous savez, autour de leur médaille. Je t'aime aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain. C'est mignon, non? Mais là, c'est pareil. C'est qu'on est dans une... plus qu'hier, moins que demain. Donc si on veut essayer d'attraper le Christ, de le saisir, c'est un peu limite. Voilà, voilà. Donc, où est-ce que j'en étais dans cette histoire? Oui, voilà, donc, vous voyez, c'est polémique, effectivement. Il y a une autre polémique vis-à-vis de Marie-Madeleine, peut-être, c'est que on a parfois assimilé Marie-Madeleine à la pécheresse, qui met, sur lequel j'ai prêché il y a quelques dimanches, qui met du parfum sur les pieds de Jésus, qui est dans des larmes sur les pieds de Jésus, ou du parfum si c'est une autre dame. Donc finalement, c'est une façon de dire Marie-Madeleine, c'était une épouvantable pécheresse. Les sept démons dont Jésus l'aurait libérée, c'était des vices absolument épouvantables. Alors, est-ce que ça la salirait pour autant? Peut-être pas d'ailleurs, parce qu'elle serait convertie, ce serait pas mal. Mais ça, c'est quand même une invention de dire qu'elle serait une pécheresse terrible. C'est pas du tout évident, on le dit pas, en fait.
C'est de cette chose-là, ce geste-là, tout à l'heure, que je faisais allusion, est-ce que c'est par exemple ce geste de laver les pieds, de l'âme, etc., est-ce que ce sont des gestes qui prouvent qu'il y a eu une intimité Est-ce que c'est un geste rituel qui est...
Mais je crois pas que ce soit elle qui ait lavé les pieds, parce que si vous voulez, c'est une... Donc c'est... Peut-être c'est une autre dame, en fait, ou deux autres dames qui auraient fait ça, une fois avec un parfum, une fois avec ses larmes. Mais Marie-Madeleine, à mon avis, enfin, ça c'est pas si sûr. Parce que si vous voulez, ce qui fait dire ça, c'est que si vous voulez, l'histoire de la pécheresse, c'est Luc 7. Et dans Luc, au début du chapitre 8, on présente Marie-Madeleine et puis ce groupe de femmes qui étaient avec les apôtres et qui étaient... qui donnait un coup de main, en fait, qui financier, matériel, et puis peut-être pour d'autres choses, pour l'accueil des gens, enfin, je ne sais pas. Eh bien, on ne fait pas le lien. Si au début de Luc 8, il dirait, ben voilà, cette Marie-Madeleine qui était là, ben, c'est justement celle qui vient de rendre visite à Jésus et qui était l'ancienne pécheresse, qui a maintenant changé sa vie. Enfin, ça aurait été une belle prédication à faire, si vous voulez. Puisque Luc 7, il présente la femme pécheresse, Luc 8, il parle de Marie-Madeleine. C'était... Ça, c'est une jolie prédication, oui. Ah non, c'est dans Luc 7, on dit qu'elle est pécheresse. Il y a un autre épisode, des fois, c'est tout à fait à la fin de la vie du ministère de Jésus, quand il est à Béthanie, en fait, juste avant la croix, il y a une femme qui met du parfum sur sa tête, sur ses pieds, et on dit que c'est pour préparer, finalement, c'est déjà un peu une... en prévision de son ensevelissement et de l'embaumement de son corps. Donc il y a des gens qui disent, est-ce qu'il y a eu deux fois l'épisode, une fois avec une pécheresse et puis les larmes, une fois avec du parfum sur la tête, à Béthanie, est-ce que c'est au début, est-ce que c'est à la fin, est-ce que c'est les pieds, est-ce que c'est la tête? Donc, parce que si vous voulez, c'est comme ça que ça se passe. Il y avait des épisodes historiques, des faits, et ensuite, chaque évangéliste, soit il est témoin, soit il entend dire, et il récupère tel épisode pour en faire une prédication, pour nous. Et alors, il brode un peu, si vous voulez, il brode, il présente, il le transforme en une prédication. Donc, c'est difficile, dans tel épisode, exactement de faire le tri, c'est une enquête policière, de savoir, ou une recherche, une enquête scientifique. Oui.
Il y a quelque chose qui rapproche de la Trinité qui me paraît bien intéressant dans une tradition qui est antérieure à la nôtre.
Tout à fait. Alors ça, c'est trois Maries. Effectivement, quand on regarde les listes qui sont données là autour de Marie-Madeleine, en particulier sur la fin, hein, au pied de la croix, ou bien au tombeau, hein, c'est vrai qu'il peut y avoir, souvent il y a trois femmes et au moins deux maris dans l'affaire. Il semble... Oui.
Il y a un endroit où on se dit qu'il y avait aussi l'autre mari.
Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Il y a l'autre Marie. Et,
c'est pas toujours la mère.
Ça, c'est Marie, hein, la mère de Jacques, Josèse. Alors, ça, c'est très délicat, cette affaire. Parce que, si vous voulez, qui est cette Marie, mère de Jacques et Josèse? On sait que les frères de Jésus s'appelaient Jacques, Josèse et Simon et Jude. Donc, quand on met une Marie qui est mère de Jacques et Joseph, ça ressemble un peu. Bon, ça peut être une coïncidence. Alors, est-ce que c'est... Mais en même temps, si c'était Marie, mère de Jésus, il ne la présenterait pas comme Marie, mère de Jacques et Joseph, sous prétexte que les frères de Jésus, deux des frères de Jésus, s'appellent Jacques et Joseph. Donc, il y a au moins celle-là. Ensuite, il y a une autre Marie.
Indépendamment des Maries historiques, moi, je reviens à ma question de la Trinité, parce que
oui.
Là, que ce soit la musique ou la peinture, c'est trois Maries.
Ben, c'est les trois Maries de Matthieu, là.
C'est vraiment très intéressant.
Oui.
C'est un fait trinitaire.
Ben oui.
Autour de Jésus, il y avait peut-être 20 femmes, il y avait peut-être 20 Maries, on en savait.
Il y était 20 femmes, mais on nous dit qu'à la croix et au tombeau, il y en avait plutôt trois.
Voilà.
Et puis ensuite, eh ben, il n'y en a plus que deux, je crois.
Et c'est pas du
Exactement.
Pour moi, symboliquement, c'est quand même quelque chose qui a été important.
C'est important. Oui. C'est important parce que, bon, le chiffre 3, si vous voulez, c'est aussi un chiffre un peu... C'est un chiffre divin, en fait. Ça, on le retrouve souvent. Et je vous l'avais dit peut-être la dernière fois, c'est parce que la figure géométrique 3 du triangle, c'est la seule figure géométrique stable. Donc le 3, c'est la solidité absolue. C'est le... Vous voyez, toutes les charpentes sont faites en triangle. La base d'une charpente, c'est le triangle, bien sûr. Le vélo, c'est toujours un cadre en triangle. Bon, maintenant, on a peut-être des matériaux plus solides. Des fois, c'est pas sur un triangle, mais le plus logique, le plus stable, c'est le triangle. Donc, dans énormément de civilisations, même qui n'ont pas discuté entre elles, le chiffre 3 est un peu spécial pour ça. Donc, mettre le chiffre 3 pour les femmes, c'est déjà un peu comme une présence de Dieu par leur foi, dans un sens. Non ? Il y a déjà quelque chose de divin dans le fait qu'elle soit trois. Peut-être, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, simplement, je peux dire que le chiffre 3 est souvent un symbole divin, avant même la Trinité. C'est même à cause de la valeur de ce chiffre 3 que pour essayer de dire, de faire de la théologie, d'essayer de comprendre qui est ce Dieu de Jésus-Christ et le rapport avec Jésus-Christ, l'Église primitive, au cours du 2e, 3e, 4e siècle, a réfléchi et a développé le concept de Trinité.
Bah, de toute façon, il y avait des trinités en Égypte, à Babylone et en Grèce.
Ou en tout cas des triades, oui.
Oui.
Et même en Inde, d'ailleurs.
Même en Inde.
Oui, oui. C'est ça. Enfin, mais enfin, ils étaient primitivement, Brahma, Siva et Vishnu étaient primitivement subordonnés à Bhagava, en fait, finalement. Enfin,
mais il y a une sorte de trinité aussi, alors.
Oui, on disait qu'il faut qu'une chose pour qu'elle existe, qu'elle soit d'abord créée, conservée et non détruite. C'était deux principes différents.
Bah donc oui, ça se retrouve dans beaucoup de civilisations, cette affaire. Alors encore, l'Inde, il peut y avoir eu des liens avec la Mésopotamie assez tôt. Alexandre le Grand, c'est quoi? C'est moins 300, moins 400, je ne sais plus.
Moins 300.
Il est allé se promener assez loin en Inde et il s'est promené ensuite jusqu'à Jérusalem avec un dialogue avec les rabbins. Et puis même avant, il peut y avoir des liens, des discussions. Il y avait beaucoup plus d'échanges qui ne semblaient dans ces... Ben voilà.
C'était celle du choix.
Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, ils ont mis trois femmes. Alors que si vous voulez, dans le truc, dans le texte, c'est pas si évident que ça. Ils disent, il y a trois femmes, mais il y en a peut-être d'autres. Ils donnent le nom de trois, mais il y avait un groupe de femmes. Alors ensuite, c'est ça, si on suit Matthieu, au début, il y avait trois femmes qui sont citées. Mais ensuite, il n'y en a plus que deux. À la mise au tombeau, elles ne sont plus que deux. Il y a Marie-Madeleine et l'autre Marie. Ça, c'est Matthieu 27, 61. Et donc, elles ne sont plus que deux, en fait. Mais il y a d'autres textes où elles sont très...
Marie, sœur de Lazare et de Marie. Est-ce que c'est Marie-Madeleine? Est-ce que c'est une autre? Est-ce que c'est elle qui est venue
Oui, c'est ça. Il y a des gens qui disent que c'est la même, la Marie de Béthanie, de sœur de Marthe et de Lazare, c'est la même que Marie-Madeleine. Moi, je vois aucune raison, a priori, mais moi, j'ai pas l'impression qu'en tout cas, il n'y a aucun indice qui le permette de le dire. On peut le penser, mais... Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres églises. Enfin, je veux dire, c'est venu assez vite, si je puis dire, vite et tardivement, le culte marial, c'est-à-dire le culte à Marie, mère de Jésus, c'est apparu au 5e siècle, peut-être. Et l'histoire de l'Assomption, de la dormition et de l'Assomption de Marie, à mon avis, c'est plutôt 7e siècle. Et ça a été promulgué par Pie XII, peut-être, en 1950, non ? Quelque chose comme ça. 55 ?
Mais le rôle d'intercesseur au Moyen-Âge, donc avant l'enfant, ce rôle d'intercesseur n'est pas, pas basé sur les Écritures.
Le rôle d'intercesseur de Marie ?
Oui.
Moi, je pense... Oui, alors si vous voulez, on voit que la place de Marie, en tout cas dans les évangiles, parce que nous c'est plutôt là-dessus qu'on se baserait, si vous voulez, ce rôle est quand même controversé, comme pour Marie-Madeleine en fait. Donc si on prend pour Jean, elle apparaît que deux fois dans un sens, aux noces de Cana, Jean 2, et à la résurrection, Jean 20. Mais son rôle est à la croix et à la résurrection, Jean 19, Jean 20. Mais si vous voulez, son rôle est si fondamental, et au début, et à la croix, et encore plus à la résurrection, qu'on peut dire, en fait, elle est importante partout. Ça, je crois que, je dirais, comme notre Église sœur, dans l'Évangile selon Jean, Marie est peut-être le premier personnage après Jésus. Voilà. À mon avis, c'est clair. Devant Jean-Baptiste et devant Pierre et les autres. À mon avis, c'est tout à fait affirmé. Ensuite, l'évangile selon Matthieu est plus nuancé. Il y a là un rôle, Marie a un rôle, donc... au début, le rôle n'est pas tellement important, c'est plutôt Joseph qui a le premier rôle, mais Marie... On commence, elle est déjà enceinte, en fait. Donc, il n'y a pas d'ange qui vient, il n'y a pas la foi de Marie. Elle est enceinte, elle donne naissance à Jésus, point. C'est Joseph qui a le rôle important. Mais là encore, c'est pas, je ne crois pas que ce soit polémique contre Marie. Je crois que c'est plus dans la prédication que Matthieu veut donner. Il veut insister plutôt sur l'adoption d'une foi qui nous précède, ou d'un Christ qui nous précède, qui nous est donné par Dieu, qu'il faut adopter, qu'il faut prendre dans notre vie. Et donc il minimise du coup le rôle de Marie et de la conception, de l'accueil. C'est ça. Je pense que c'est dans le domaine de la prédication. Il y a aussi, je crois, dans Matthieu, l'idée de relativiser le lien, la place du sang, si vous voulez. Le fait de concevoir Jésus dans son ventre, de donner naissance, il veut dire que ce n'est pas si important que ça. Ce n'est pas le sang qui est important, et on voit Jésus dans sa famille, parmi ses amis, est mal vu, et dit voilà, bon, il n'est pas tellement accepté. Donc, si vous voulez, on fait un bilan pas très important de Marie. Par contre, Luc... Il a aussi l'idée d'une conception miraculeuse de Jésus avec une vierge. On le retrouve, ça c'est commun à Matthieu et à Luc, mais dans le début de l'évangile selon Luc, en tout cas, Marie a carrément le premier rôle, un rôle extraordinaire, un très très beau récit de Luc 1, avec le dialogue avec l'ange qui fait de Marie, dans un certain sens, une nouvelle Ève, en fait, si vous voulez. Parce que c'est elle qui dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. C'est exactement l'antidote de la parole d'Ève qui dit, finalement Dieu a dit ça, mais est-ce qu'il l'a vraiment dit? Et puis qui choisit de dire, je veux me faire un peu l'égal de Dieu, ou faire de mon désir mon propre Dieu. Donc là, il y a un passage extrêmement important dans le début de l'évangile selon Luc. Bon, dans la suite, Luc, il y a moins d'importance pour Marie, finalement. Alors c'est pareil, comme je disais que la finale de Matthieu a été rajoutée, peut-être que le début de Luc a été rajouté aussi parce que... Quoi ? Alors la finale de Marc a été rajoutée, mais peut-être que le début de Luc a été rajouté parce que après tout cet évangile de l'enfance avec Marie, il y a de nouveau une généalogie de Jésus qui apparaît comme si c'était un nouveau début. Alors il y a des gens qui disent tout le début avec la naissance, la conception, le Magnificat, tout ça, c'était une amplification. Bon, mais je ne sais pas, parce que nous, tous les manuscrits que l'on a, unanimement, mettent ce début de Luc, je crois. Non, messieurs, hein?
Il me semble. Ce qui me frappe, c'est que si on s'amusait évidemment à construire les évangiles, mais si on n'avait pas Jean, si on avait les synoptiques, qui sont quand même la source la plus ancienne, moi, ce qui me frappe, c'est que le personnage de Marie est un personnage qui, presque de bout en bout, ne comprend rien à ce qui se passe. Quand elle va retrouver son fils au temple, et plus exactement, il est perdu, alors elle retrouve au bout de quelques temps, mais ton père et moi, on s'inquiétait. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Et elle ne comprend pas. Et on dit, et ils ne comprenaient pas ce qu'il disait.
Ils ne comprennent pas.
On a l'impression qu'elle a tout oublié. Si c'est passé ce que Luc a
oui,
dit,
oui.
Elle a tout oublié. Et si on reste sur les synoptiques, elle n'est même pas là pour la passion. Donc ce qui me frappe, c'est le caractère très secondaire du personnage dans les synoptiques, qui va commencer à croître avec Jean, qui nous désigne la perspective où elle va devenir co-rédemptrice dans une certaine tradition religieuse. Mais c'est très frappant. Je pense que si la Providence avait fait que nous n'avions pas Jean, eh bien, Marie serait un personnage extrêmement secondaire, contradictoire, et donc on a l'impression qu'elle n'a jamais rien compris à ce qui se passait, surtout à ce fils bizarre qu'on lui a donné.
Oui. Mais si vous voulez, d'abord notre Église sœur a jamais dit qu'elle était co-rédemptrice quand même, elle n'a jamais été tout à fait jusque-là, mais c'est une perspective peut-être future, hein, je pense peut-être pas quand même, mais quand même je dirais, dans l'Évangile selon Luc, elle a un vrai rôle dans ce début, c'est quand même extraordinaire, c'est vraiment une nouvelle Ève, et son Magnificat est très très grand, un des plus grands beaux textes, j'allais dire, des évangiles. Et alors,
on retrouve déjà dans Samuel.
Oui, qui reprend un peu le cantique d'Anne, mère de Samuel. C'est un tissu de citations bibliques, ce qui est d'ailleurs un...
C'est un tissu de citations bibliques.
Oui.
De personnages.
Mais c'est un bon exemple, finalement, parce que le fait que ce soit un tissu de passages bibliques, c'est une invitation, nous aussi, à prendre la Bible, à la vivre et à faire un rapprochement avec notre propre vie, et que ça donne sens à notre louange, notre ouverture à ce qui se passe dans notre existence comme expérience spirituelle, intellectuelle. C'est une invitation, tout ça aussi. Alors le pire, c'est Marc. Effectivement, Marc, d'abord Jésus, il est fils de Dieu sans qu'il y ait besoin de conception miraculeuse ou de quoi que ce soit, c'est pas la question. Deuxièmement, on voit qu'au milieu, la famille de Jésus considère un peu Jésus comme fou, en disant « mais il faut qu'on aille le prendre, parce qu'il ne prend même pas le temps de manger ou de se reposer, donc il va nous faire un burn-out », comme on dit en français. Et donc, l'évangile est féroce contre Marie. Alors pourquoi ? Ça, à mon avis, si vous voulez, c'est des questions, je crois, de personnes dans l'Église primitive. Pourquoi ? Moi, j'ai une vague hypothèse, si vous voulez, c'est que on sait que Marc est disciple de Pierre, et on voit que Pierre, au début des Actes des Apôtres, il est grand chef de l'Église, premier parmi les apôtres. Quoi ?
Il y a des jalousies.
Et ensuite, on voit que Pierre, il se fait mettre au deuxième plan, et c'est Jacques, appelé frère du Seigneur, donc un frère de Jésus, ça c'est sûr. Est-ce que c'est demi-frère ? Est-ce que c'est est-ce que c'est un autre fils de Marie ? J'en sais rien, on n'en sait rien, on n'y était pas. En tout cas, c'était... Peut-être c'est un cousin. Bon, en tout cas, il y a marqué frère. Hein. Dans les évangiles, c'est marqué frère. On dit qu'il y a les frères. Et puis, à mon avis, si justement... Ce Jacques, qui ne faisait pas partie des 12 apôtres, c'est sûr, prend tout d'un coup la tête de l'église de Jérusalem et devient même chef de Pierre et des 11 autres apôtres. Comment imaginer qu'un bonhomme qui ne faisait pas partie des 12, qui n'avait pas suivi Jésus, devient tout d'un coup the big chef de tout le monde par-dessus les 11 apôtres? Moi, s'il est vraiment frère de Jésus, je comprends, c'est un début de dynastie, si vous voulez. Alors du coup, Pierre peut dire, mince, on voit que c'est Jacques qui lui donne des ordres, qui dit à Pierre, ben écoute, maintenant tu vas faire ça, et puis il dit, bon, entre Paul et Pierre, il y a un petit, et il dit, bon, mais maintenant, voilà, je prends la décision, moi, Jacques, et maintenant vous filez d'où? Et on voit Pierre, d'après les lettres, d'après les actes, il a peur des émissaires de Jacques, il dit, oh là, faut que je file d'où? Donc est-ce que Pierre et son disciple Marc, ils sont pas tellement pour non plus en rajouter sur la famille de Jésus, la famille de sang de Jésus, et aller dire voilà, c'est eux qui sont proches, qui sont une première place à côté de Jésus. C'était peut-être pas forcément dans l'ambiance de l'époque. Alors est-ce que c'est comme ça? J'en sais rien, si vous voulez. Moi, je sais pas. On n'a pas de témoins de l'époque ou du IIe siècle. Irénée de Lyon, qui explique en 150 un peu comment étaient rédigés les évangiles, il dit pas, Pierre était jaloux comme un tigre de Marie-Madeleine et puis de Marie, mère de Jésus, et puis de Jacques, il dit pas ça, on n'en sait rien. Donc c'est des vagues hypothèses. Hein.
D'autant plus sur le silence de Marc à propos de l'éventuelle conception vaginale, il y a aussi une raison positive qu'on peut opposer, c'est-à-dire qu'une partie de la communauté chrétienne considérait que Jésus était devenu fils de Dieu au moment de son baptême seulement,
oui.
Par adoption.
Et oui, et oui.
Donc là, à ce moment-là, dans cette thèse-là, la conception originale ne se pose même pas. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. C'est pas forcément qu'on l'a évacué. C'est qu'on considère qu'il est devenu fils de Dieu, comme ils disent, je l'ai choisi aujourd'hui, j'en ai fait mon fils, voilà, au moment de son baptême, par adoption.
Oui, parce que... Oui, parce que...
On n'a pas écarté la conception originale, c'est qu'il y avait une autre explication du caractère de fils de Dieu de Jésus.
Alors, cette conception virginale, de toute façon... soit c'est une réalité mais historique, soit c'est un symbole, mais ça, en tout cas c'est un symbole, c'est-à-dire que même si c'est une réalité historique, c'est-à-dire si vraiment Marie n'a pas eu de relation sexuelle pour concevoir Jésus, ce qui moi personnellement ça m'étonnerait beaucoup, si vous voyez, je pense que c'est pas comme ça qu'on fait les enfants, mais cela dit, à la limite, pourquoi pas, si vous voulez. Peut-être que c'est littéral, historique, comme ça, physique, biologique, et qu'il y a eu une... Il y a plein de choses qu'on ne comprend pas et qui dépassent notre entendement, si vous voulez, aussi bien dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand, donc peut-être aussi dans le biologique, il y a des choses qu'on ne comprend pas non plus. Donc, bon, mettons que ça soit, si c'est arrivé, si c'est Dieu qui a fait concevoir une vierge, un enfant, etc., il ne l'a pas fait pour faire le malin, si vous voulez. Il l'a fait pour donner une révélation qui nous concerne, dans l'inscrire dans l'histoire, dans les faits, dans une histoire, dans des événements. Et donc ces événements sont à interpréter comme étant une réalité qui nous concerne, qui concerne pas simplement l'histoire biologique de Marie et de Jésus, si vous voulez.
Ça mériterait une autre étude,
et il va falloir que je vous laisse partir d'ailleurs, je crois. Hein. Quoi ?
Qui a fait connaître l'histoire de la conception virginale ? Qui l'a raconté ? Parce qu'il n'y avait pas tellement de témoins.
Oui, alors c'est en tout cas, c'est dans... Alors ça peut être Marie... Ça aurait pu être Marie, ça aurait pu être Joseph qui a visite d'un ange, donc des expériences spirituelles. Alors ensuite, ben si c'est vraiment comme ça que c'est arrivé, je comprends qu'ils aient fini par en parler. Cela dit, au point de vue historique, si on peut aller un peu plus loin, c'est simplement que dans le Talmud, les Juifs disent qu'il est Jésus, donc fils de Pantera ou Pandera, qui a été un officier romain qui aurait violé, couché avec Marie. Bon, ça peut être une façon, si vous voulez, de salir effectivement Jésus en disant qu'il est le fils adultère d'un occupant romain. Mais ça veut bien dire quand même que du temps de la rédaction du Talmud, il y avait des mystères et des trucs autour de la conception de Jésus, et que cette idée de conception miraculeuse circulait déjà au IIe siècle dans des milieux non chrétiens. C'est reconnu par les musulmans, absolument, cette conception miraculeuse.
Les Mésopotamiens et tout ça, les héros
Oui, il y a beaucoup en Mésopotamie, dans la Grèce aussi, hein, dans la mythologie grecque, il y a beaucoup de demi-dieux. Mais justement, pour nous, Jésus ne serait pas un demi-dieu quand même. Ce n'est pas la théologie chrétienne.
La tradition tardive dit que Marie meurt de mission à Éphèse. Et comme par hasard, Éphèse était le lieu traditionnel de culte d'Artémis, qui est une vierge mère.
Oui.
Et ce n'est pas un hasard. Si on a dit au IVe siècle, qu'elle est, au moment où le christianisme est devenu une religion impériale, elle est morte à Éphèse, où on célébrait le culte d'Artémis, qui est une vierge mère.
Oui. Oui, non, c'est vrai.
Donc il y a un habillage de Marie qui est un personnage mineur dans les synoptiques et qui récupère les habits venus d'une autre culture religieuse, qui est celle de l'Empire romain.
Peut-être, mais dans un autre sens, c'est de bonne guerre aussi. Par exemple, bon, il y avait la fête du soleil. Ensuite, les chrétiens se disent, bon, on va faire une fête de Jésus-Christ, on choisit le solstice d'hiver pour faire une fête de Jésus. On sait très bien que ce n'est pas la naissance de Jésus, mais on met là la fête de la naissance de Jésus, c'est très sympathique, pourquoi pas. Donc, si vous voulez, c'est une évangélisation de ce qui existe avant, c'est de bonne guerre.
Comme ce n'est pas notre culture, il faut voir ce qui était autour de Jésus, parce que forcément, il y a une contamination, car en Israël, bon, on parlait hébreu, mais... Tout le bassin méditerranéen, les gens se connaissaient parce qu'ils faisaient une navigation le long des côtes. Donc les symboles, les...
Oui, ça circulait.
Ça circulait.
Surtout qu'ils parlaient grec.
C'est ça.
Si on ne bêche que dans les écrits bibliques, ce soit par hasard que le maire d'Emmanuel, Jésus ou Josué, le même nom que la sœur de Louis.
Oui. Alors on peut. Oui, on peut aller aussi là-dessus. Alors en particulier ceux qui prétendent que Jésus n'aurait pas existé. Donc par exemple, il y a un livre qui s'appelle l'invention Jésus. Ce qui est incroyable, c'est que je l'ai même vu apparaître dans une sorte de petite encyclopédie Bordas. Hein. C'est pas du machin scabreux, etc. Connaissance, renouveler vos énergies ou je sais pas quoi. C'est
l'invention de Jésus de
Dubourg. Mais sinon, dans une encyclopédie Bordas sur les énigmes du christianisme ou je sais pas quoi, tout un truc qui dit Jésus n'a pas existé. Ce que tu dis là, c'est qu'en fait, c'est un midrash, c'est-à-dire c'est une réécriture de Myriam, sœur de Moïse et d'Aaron, et puis de Josué qui rentre, et que donc c'est un midrash de l'attente messianique qui est rédigé comme ça. Moi je crois que ça, c'est pas très sérieux. Honnêtement, on a le droit de dire que Jésus de Nazareth, cet homme, est un gros nul, mais on peut pas dire qu'il a pas existé raisonnablement, si vous voulez. Ça, je crois que ça n'a pas de sens. Hein.
Mais non, oui. Est-ce que c'est aussi la fusion de plusieurs personnages?
Alors, il peut y avoir, comme je vous disais, sur la base de la vérité historique de fait de cet homme qui était sans doute charpentier, sans doute de Nazareth, parce que franchement, ça ne s'invente pas d'être de Nazareth. Hein. C'est comme de dire un président qui viendrait de un président qui viendrait de Corrèze, par exemple. Ben, si vous voulez, hein, qui commençait à prêcher, qui était rabbin comme ça, puis finalement qui a été abandonné par tous ses disciples et qui a été exécuté, pendu sur une croix, ces genres de machins, ça ne s'invente pas, si vous voulez. Donc ça, c'est sûrement historique. Ensuite, à partir de ce fond historique, eh bien, on fait des prédications avec les épisodes qui sont repris, mais qui viennent nous dire, non pas littéralement ce qui s'est passé, mais plutôt... Ce qu'ils ont vécu, expérimenté de ce qu'apporte Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, comme salut, comme foi, comme machin. Et donc il y a une mise en récit de ces actes, de ces paroles, de ces événements pour nous dire vraiment le salut qui est donné par Dieu en Jésus-Christ. Donc c'est pas du bidon, si vous voulez. Il y a des éléments historiques et puis il y a vraiment des vérités existentielles, spirituelles et théologiques qui sont données à travers ces événements.
C'est pour ça qu'on a tellement de mal à comprendre.
Bon, c'est intéressant qu'on ait du mal à le comprendre parce que c'est des textes qui viennent faire choc avec notre propre existence. Et donc forcément, c'est une difficulté pour nous d'entrer dedans, de se laisser choquer, bouleverser, emporter, transformer. C'est un effort pour tout le monde, bien sûr, un effort d'interprétation, un effort d'ouvrir les yeux avec lucidité sur l'existence, sur la nôtre, sur ce que nous sommes. C'est un effort de changement, d'évolution. Enfin, je ne veux pas être plus long parce que... Oui. Alors, le disciple bien-aimé, ça c'est une énigme, il y a des livres entiers qui ont été reçus. C'est ce qu'on pense, on pense que c'est Jean. De se nommer lui. Ben, c'est ce que dit l'évangile selon Judas. Ils disent que Judas était l'évangile le plus le disciple, l'apôtre le plus proche, et qu'en fait il a donné sa vie pour transmettre le Christ, pour hâter la venue du royaume. C'est une hypothèse. Mais c'est une autre question, ce Judas. Voilà, donc je vous remercie. Désolé pour les perturbations imprévues.
Il avait la confiance totale de Jésus. Il a dit de faire le sale boulot.
C'est possible. C'est une des deux hypothèses. Voilà, c'est moi, je pense aussi.